53. Élise. Noah dort, sa petite pieuvre dans la main. Je m'installe sur le fauteuil et Florence positionne le bébé contre moi. Il sent bon, il sent les souvenirs. Je me suis surprise à penser à lui cette semaine. C'est étrange de donner de l'affection à une personne que l'on ne connaît pas. Je ne saurais sans doute de lui que son prénom, sa manière de s'agripper à tout ce qu'il trouve, ses lèvres rouges sang. Un jour, j'arriverai et il ne sera plus là. Et ce sera une bonne nouvelle. Pendant 4 heures, je lui raconte ma semaine. La surprise de mon anniversaire. La presque adoption d'Edouard, certainement en train d'aboyer à l'instant où je l'évoque. Mon affront à Madame Madinier. La disparition de mes adducteurs. Je lui décris l'extérieur, ce qu'il attend. Je lui chantonne des berceuses. Je lui raconte des histoires de lapins qui parlent et de girafes qui dansent. Les automatismes ressurgissent comme si c'était hier. Florence vient le nourrir. J'en profite pour me rendre dans la salle des familles afin de remplir ma gourde. Je traverse les 2 autres zones, la rose et la bleue, en veillant à regarder droit devant moi pour ne pas déranger l'intimité des familles. Une voix familière me parvient depuis un box. Je tourne la tête. Jean-Louis est assis, un bébé contre son torse. Il sourit en me voyant. J'approche de la porte.
« Salut !»
je chuchote. « Salut !»«
C'est Lou ?»
il approuve en silence. « T'as l'air fatigué !» ajoute-t-il. « Tout va bien pour toi ?» Décontenancé, je me mets à rire.
« Tu dis ça à cause de mes cernes ?»«
Oui. » Mon rire redouble.
« Je fais si peur que ça ?»
J'irai pas jusque-là, mais j'espère ne pas te croiser la nuit. Je ne suis pas loin de m'offusquer quand je perçois la lueur d'amusement dans son regard. Je plaisante sur ce dernier point. Même en pleine nuit, je serai heureux de te croiser. Je le remercie de sa magnanimité et prends congé. Jean-Louis est surprenant. Je n'ai jamais rencontré une personne comme lui. À l'instar des enfants, il assène ses pensées sans amorti, mais sans malveillance. C'est déstabilisant et étonnamment rafraîchissant. Florence est en train de changer Noah lorsque je reviens.
« Il vous aime bien, » me confie-t-elle. « Vous l'apaisez. Son rythme cardiaque n'est jamais aussi bas que quand vous êtes là. » D'autres personnes viennent le voir. Une autre câlineuse le jeudi soir.
Et ses parents?
Le dimanche.
Je ne commente pas. J'essaie de ne pas porter de jugement. Je me réinstalle sur le fauteuil. La puéricultrice me confie Noah, qui retrouve instantanément sa place contre mon buste, comme s'il n'en était jamais parti. Alors que je plie le bras pour éloigner mon collier, ses petits doigts s'accrochent à mon pouce. Je referme les miens et nous restons là, main dans la main, cœur contre cœur, à nous réconforter l'un l'autre. Avant de quitter le service, je rejoins Florence à l'îlot central. La dernière fois, la puéricultrice a évoqué la possibilité pour les bénévoles d'intervenir 2 fois par semaine. Je lui fais part de mon désir de venir également le samedi. Elle m'informe qu'elle doit en parler à Hélène, mais que cela ne devrait pas poser de problème. Je m'apprête à partir quand, dans mon dos, la voix de Jean-Louis retentit.
« Pouvez-vous lui demander la même chose pour moi ?»
54. Lily. À la maison, j'ai rouvert la porte de ta chambre. J'ai levé les rideaux, le soleil s'est invité. Ton papa portait un survêtement troué, moi une salopette vestige de mon adolescence, on a allumé la radio et on s'est mis au travail. Tu as vu assez de murs blancs pour toute une vie, il te faut de la couleur. Le poster de la plage Biarritz nous a inspirés. Peu à peu, ton papa au rouleau, moi au pinceau, les murs blancs sont devenus bleus et des poissons colorés ont fait leur apparition. Ils étaient tous identiques. C'était le seul modèle que j'étais capable de dessiner, mais je variais les couleurs. À un moment, dans un accès de confiance, j'ai entrepris de peindre un dauphin.
Il s'est pris un chalutier dans la gueule,
a raillé ton papa.
Il est différent, le pauvre. Je suis choquée que tu oses te moquer de lui.
Le dauphin est finalement devenu un rocher. On a préféré t'éviter une longue thérapie. On a ensuite monté le berceau, qu'on a installé à côté de notre lit, pour les premiers mois. Tes doudous t'attendent avec impatience. Et nous, je te dis pas. On avait encore de la peinture sur les doigts quand on est arrivé. Dans ton box, on a trouvé l'interne qui avait été odieuse avec la maman de Clément.
Tu dormais. Quelque chose avait changé, mais il m'a fallu plusieurs secondes pour l'identifier. Le masque qui recouvrait ton visage depuis le premier jour avait disparu.
Elle n'a plus besoin de la PPC ?
Je me suis exclamée. L'interne a levé un œil sur nous avant de répondre par la négative.
C'est définitif ? C'est en qui ton papa ?
Elle a soupiré.
On tente, on verra bien.
Tu étais libre, tu respirais. On avait tant attendu ce moment. On partageait enfin le même air, plus qu'une étape et on quitterait cette parenthèse pour commencer notre vie. Ton papa a saisi ma main et l'a serrée très fort. Il a failli me péter les phalanges. Tes poumons fonctionnaient seuls, les miens s'ouvraient pleinement. Les derniers fragments d'angoisse venaient de se désintégrer. Sans grande surprise, je me suis mise à pleurer.
Sans un regard, sans un mot, l'interne a quitté le box.
Ton papa a écrit « Bravo, championne » sur le tableau blanc. À côté, il a dessiné une forme indéfinissable. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait.
Tu ne reconnais pas ton magnifique dauphin ?
Il était fier de lui.
On est resté avec toi jusqu'à ce que la fatigue nous chasse. Ta saturation et ta fréquence respiratoire sont demeurées excellentes. Le masque et toi, c'était de l'histoire ancienne.
C'était déchirant de te laisser. J'ai beau te savoir entre de bonnes mains, je ne peux m'empêcher de me demander si tu te sens seule, si tu as conscience que l'on n'est pas près de toi, ce qui se passe quand tu pleures. J'ai envie d'être avec toi jour et nuit, d'ouvrir les yeux sur ton visage, d'être réveillée par tes cris, d'arpenter la maison en te berçant, de sentir ton corps se détendre contre moi, d'avoir la poubelle pleine de couches sales, ton odeur dans la chambre, ton vomi sur l'épaule. Plus ta sortie approche, plus l'impatience me tenaille.
Il était 1h du matin quand on est rentré. On a traversé la maison sur la pointe des pieds, tes grands-parents dormaient. On essayait d'étouffer nos rires. La légèreté était de retour. J'ai fermé la porte de la chambre le plus silencieusement possible. Quand je me suis retournée, j'ai assisté à un spectacle auquel je n'étais pas prête.
Ton père se dandinait sur une musique imaginaire tout en ôtant ses vêtements un à un. Il faut que tu saches qu'il a beaucoup de talent, mais la danse n'en fait pas partie.
Ses jambes étaient fléchies, son bassin comme empaillé et ses bras avaient lâché l'affaire.
On aurait dit une algue.
Il a jeté sa veste dans ma direction, a fait tomber la lampe avec son t-shirt et il tentait tant bien que mal de s'extirper de son jean quand on a frappé. Je n'ai pas pu ouvrir, je riais trop. Il a sautillé, pantalon sur les chevilles, jusqu'à la porte. Ta grand-mère se tenait de l'autre côté. Son regard était glacial. Il a fait peur à mon rire.
« Vous vous fichez de nous ?» elle a demandé à son fils.
« Non, pourquoi tu dis ça ?»«
Quel jour est-on ?»
Il a réfléchi avant d'écarquiller les yeux.
« Oh merde ! Joyeux anniversaire, maman !»«
Trop tard, c'était hier. J'avais préparé des lasagnes. On a cessé de vous attendre à 22h. »
Je me suis assise sur le lit. Tes grands-parents réussissaient l'exploit de faire fondre ma peur du conflit. J'étais révoltée par l'infantilisation et la culpabilisation dont il usait.
Elle a poursuivi.
Ton père te l'a expliqué l'autre soir, pourtant. Vous pourriez au moins prévenir quand vous rentrez tard. C'est une question de respect.
Le respect, c'est aussi de ne pas considérer des adultes comme des bébés.
La phrase s'était échappée de ma bouche. J'en étais la première surprise.
Ta grand-mère a lentement tourné la tête vers moi.
Si tu le permets, Lily, je m'adresse à mon fils.
L'algue était tétanisée. Moi lancée.
Et moi je m'adresse à vous. J'ai répondu sans hausser le ton.
Je refuse que vous nous traitiez comme des gamins. Vous vous êtes imposés chez nous, alors vous devez respecter notre façon de vivre. Je ne tolérerai plus la moindre remarque. On rentre quand on le décide. On donne la sucette à notre fille. Elle dormira dans notre chambre. Je la porterai jusqu'à ses 30 ans si elle le souhaite. On se passera de votre permission. Et si ça ne vous convient pas, vous partez.
Ton grand-père nous a rejoints. Il était écarlate.
Ta grand-mère semblait retenir ses larmes.
On ne vous demande pas grand-chose tout de même. On a mis notre vie entre parenthèses pour vous. On se charge du ménage, des repas, des machines, du chat. Tout ça pour vous permettre de vous occuper sereinement de notre petite fille. Vous pourriez faire preuve d'un minimum de reconnaissance.
Elle a marqué une longue pause avant de reprendre plus calmement.
On a compris le message. Puisque vous êtes des grandes personnes, on va vous laisser vous débrouiller. On partira demain. J'espère sincèrement que vous vous en sortirez. Ton grand-père lui a tendu un mouchoir. Ton papa a esquissé un léger sourire. J'étais épuisée, mais profondément soulagée. Pour une fois, je ne m'étais pas laissée faire. J'avais exprimé ce que j'avais sur le cœur, sans colère. Et le résultat était au-delà de mes espérances. Tes grands-parents avaient pris conscience de leur omnipotence et enfin, ils allaient nous considérer comme des adultes. Ils ont entamé leur repli vers le salon, mais ta grand-mère n'était manifestement pas satisfaite de ce cessez-le-feu. Alors, elle a fait demi-tour, a inséré une cartouche dans le fusil d'assaut, elle m'a visée et elle a tiré en pleine tête. Je suis désolée que ta mère ait fait le choix de mourir, mais nous, on est bien vivants.